Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Sylvie Matera, senior advisor du cabinet de conseil et d'audit Mazars. Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Prévision de croissance OFCE, c'est 0,8, hein, je crois.
Alors, c'était notre prévision d'octobre 2023. Ah, oui. Donc, on est en plein dedans, je ne vous donnerai pas le chiffre, mais ça sera certainement plus bas.
Guillaume Richard, président du groupe de services à la personne WeCare. J'ai eu pas mal de réactions. Il y a cet auditeur Astolf qui me dit « Il y a eu un impôt de crise. La hausse de 5% des retraites, elles auraient dû baisser de 5%. » C'est un sujet qui divise tout le monde, ça, hein, le fait qu'il y ait eu la revalorisation des retraites et qu'Emmanuel Macron ait enterré toute idée de sous-indexer les pensions de retraite pour 2025.
Ce qui est drôle, c'est qu'il reparle pour le futur de possibles désindexations. Ah oui, il l'a écarté, la désindexation. Oui. Mais la désindexation, elle est plus intéressante quand il y a de l'inflation. Hein.
Oui.
Quand l'inflation est faible, ça ne joue pas beaucoup.
Il y aura moins d'inflation, évidemment, en 2025. Mais parce que Thomas Cazenave avait laissé entendre qu'une sous-indexation des retraites était envisageable en 2025. Et Emmanuel Macron a totalement enterré cette idée. Il y a vaguement un scrutin important au mois de juin. Et c'est une population qui se rend massivement aux urnes et qui a tendance à avoir un vote assez conventionnel, on va dire. Légaliser le cannabis. Moi, j'ai eu le débat avec Jean-Marc Daniel ce matin. J'ai l'impression que tous les économistes sont pour, Guillaume Richard. Hein.
Bah, moi, je suis pour à la fois pour des raisons économiques et puis socialement aussi. Ça fait combien... Est-ce qu'il y a un seul produit que l'on a interdit sur lequel la prohibition a eu des effets positifs? Est-ce qu'il y en a un seul?
Je me suis posé cette même question.
Jamais.
C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce que la répression a permis de faire reculer la consommation des mineurs, le trafic, les cartels?
Par contre, ce qu'elle crée, c'est ça. Ce sont les trafics, les cartels, les maxins, etc. Et quand il y a un peu plus d'un siècle, on avait de l'alcool frelaté et on avait des ravages causés par de l'absinthe qui était plus ou moins bien géré. Aujourd'hui, en France, le niveau de contrebande ou de malfaçon sur l'alcool, il est extrêmement réduit. Et donc, on est capable de faire de la prévention, on est capable de prendre des taxes, on est capable d'organiser une filière économique
avec
quand
des
on légalise.
Produits propres.
Absolument. Parce que
et freiner la consommation des mineurs.
Parce que l'énorme problème du cannabis, par exemple, c'est que moi, quand j'étais jeune, le taux de THC du cannabis était entre 3 et 5% sur du cannabis. Aujourd'hui, il y a du cannabis à plus de 20% de THC. Aujourd'hui, vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Et donc, à un moment... Et ça n'a plus de sens. Donc il faut légaliser pour pouvoir contrôler, pour pouvoir sanitairement gérer les choses, pour pouvoir faire des campagnes de prévention qui sont associées, pour pouvoir taxer aussi, pour pouvoir générer une économie déclarée et saine et ne pas avoir des trafics et ne pas avoir des coûts et ne pas avoir une population carcérale qui aujourd'hui est remplie à quel pourcent? Je crois que c'est quasiment 50% par des trafiquants de cannabis. Il y a un moment, ça n'a pas de sens.
Alors, il y a eu un rapport du CAE en 2019 qui avait donné des chiffres. 2 milliards de recettes annuelles fiscales liées à la légalisation.
Et combien d'économies?
Estimé 50 000 emplois créés.
Et combien d'économies? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ça coûte extrêmement cher. Et puis après, on nous dit, oui, mais il faut pas légaliser le cannabis, parce que si on légalise le cannabis, c'est un marchepied vers d'autres drogues. Mais c'est exactement comme vous me disiez, pour tous les consommateurs d'alcool ont un jour consommé de l'eau avant de consommer de l'alcool.
Non, mais il est clair que s'il y avait une légalisation du cannabis, il y a toute une partie du marché, du trafic qui serait éradiqué et des consommateurs vont pas, parce que c'est devenu légal, se dire tiens, je vais passer à un autre produit plus stupéfiant qui est resté dans l'illégalité. Mais le problème, c'est que ça inquiète beaucoup le ministère de l'Intérieur parce que vous mettez en faillite des quartiers complets, du jour au lendemain.
Ah, ça effectivement, voilà. c'est un point...
Vous avez des familles qui vivent de ça. S'il n'y a plus ça, il n'y a plus d'argent.
Mais après, ils pourront se reconvertir dans le business légal.
Oui, oui. Vous avez un avis là-dessus, la légalisation du cannabis?
Alors, moi, franchement pas, mais je viens d'être convaincue.
Et moi, je suis totalement convaincue par ces personnes.
Effectivement, si en plus ça permet de générer des recettes fiscales, alors... Tout va bien.
On cherchait des recettes fiscales.
La légalisation, c'est ce qui est fait aux Pays-Bas, en fait.
Au Canada.
La légalisation, c'est organiser la distribution de.
Ouais. Mais il y a les Pays-Bas, il y a le Canada, il y a une partie des États.
Le Canada le font aussi. Les États-Unis, c'est pour certains des raisons.
Ça dépend des États, en fait.
Dépénalisation ou légalisation.
Il y a 10 États américains qui ont légalisé, dont la Californie.
Légaliser, c'est pas dépénaliser.
Oui, légaliser, c'est pas dépénaliser. On est
voilà, et ça, c'est un point important. Et je crois qu'effectivement, ce qu'ont l'air de montrer les études, c'est que d'ailleurs, on est un pays qui consomme beaucoup de cannabis, malgré la dureté.
En Europe, oui, beaucoup.
Voilà, on fait partie chez les jeunes notamment. Oui. Alors même que, pourtant, les lois sont dures là-dessus. Relativement, si par rapport aux autres pays, on est quand même. Enfin, il y a des études qui montraient ça. Et c'est vrai que du coup, en le légalisant notamment, ça permet aussi de faire beaucoup plus de prévention, d'en parler beaucoup plus clairement, de mieux accompagner. Et donc, effectivement, la prévention.
Et la vraie gestion médicale, parce qu'aujourd'hui, vous savez pas du tout ce que vous achetez.
Ah, mais ça, c'est, il est vrai.
Parce qu'en plus, il y a le cannabis sous forme d'herbe et il y a le shit qui est de la résine. Ouais. Et dans la résine, vous avez tout et n'importe quoi. Non, vous avez tout et n'importe quoi. Et donc, il y a des vrais aussi questions sanitaires qui se posent.
Non, bien sûr.
Il est vrai qu'à l'époque du rapport du CAE, on n'était pas sur des taux de THC comme ceux que vous évoquez aujourd'hui. Et c'est un argument de plus, le fait d'avoir des produits qui ne soient pas ultra dosés ou alors voire froidlatés, qui est aussi un élément qui plutôt plaide pour cette piste-là. Ça n'est pas un sujet qui est évoqué en France, il n'y a pas de débat sur la légalisation.
Non, clairement, il n'y en a pas.
Il n'y a pas de débat. A priori, c'est un peu comme la taxe carbone, c'est un sujet sur lequel la plupart des économistes, généralement, sont du même avis. Il n'y a pas tellement de sujets sur lesquels il y a consensus, mais ça en fait partie. Bon, ben oui, il n'y a a priori que des avantages, sauf que le risque d'émeute en banlieue est réel. Et là...
Le risque d'émeute qui serait généré par qui? Juste par les trafiquants qui, du jour au lendemain, perdraient leur monopole de trafic.
Qui serait généré par des quartiers entiers dont les familles vivent, en fait.
Oui, mais on peut
de
pas.
De l'argent généré par.
On peut pas se satisfaire de ça non plus.
On peut pas se satisfaire de ça.
C'est pas grave.
Non, je suis pas sûr que ce soit le.
Oui, mais il faut gérer la transition.
Bien sûr.
Certainement.
Vous savez, je sais plus qui disait, tant que les gens ont pas faim, FAIM, ils descendent pas dans la rue. Et c'est à partir du moment où ils ont faim que les problèmes se posent. Bon.
Ça pose d'autres problèmes dans les banlieues, les trafics de drogue, quand même.
Non, mais c'est évident.
Au-delà des recettes que ça peut apporter, quoi.
Ouais. Mais voilà. Oui, je sais pas si vous avez des réactions.
Je suis sûr curieuse, quand même, de dire.
En parallèle, vous avez vu l'opération anti-drogue XXL menée depuis 3 jours dans les quartiers à Marseille.
Oui, j'ai vu ça, bien sûr. Mais c'est pour ça que je vous pose la question.
Parce que ça va dans la direction de. On éradique les trafics. Donc si on éradique les trafics, on éradique aussi les sources de revenus illégales qui font vivre ces familles. Donc plutôt que d'avoir des sources de revenus illégales, transformons ça en sources de revenus légales.
Et d'ailleurs, le rapport du CAE proposait la mise en place d'une sorte de monopole d'État dans la production et distribution de cannabis en France. En soulignant d'ailleurs qu'on était l'un des plus grands producteurs de chanvre en Europe et qu'on avait une possibilité de rebond agricole.
Ça a plein de vertus par ailleurs, le chanvre. Dans l'utilisation derrière de tout ce que vous pouvez faire dans les fibres et dans l'isolation, etc., il y a plein de vertus qui ont été... oublié ou pas suffisamment cultivé, donc il y a pas mal de choses à faire avec.
Sylvie Matera s'est présentée depuis hier comme un événement à la Banque du Japon pour la première fois depuis... Je passe du coq à l'âne, c'est bien le cas. D'accord. La Banque du Japon remonte ses taux pour la première fois depuis 17 ans et les repasse en
territoire
positif.
Oui.
Vous y voyez un événement?
Alors, c'est un événement puisque ça n'est pas arrivé depuis 17 ans. Donc ça, déjà, de manière temporelle, c'est un événement. Mais là, maintenant, quand même... faut pas totalement exagérer parce que les taux japonais évoluaient entre moins 0,1 et 0.
Oui.
Maintenant, ils vont évoluer entre 0 et 0,1, plus 0,1. Donc, certes, c'est un changement, mais c'est pas quand même une révolution fantastique. Cela étant, ça prouve que la Banque du Japon revient dans le cercle des banques centrales actuelles qui sont dans une phase de... qui ont remonté leurs taux.
Pas totalement quand même. Elles continuent à acheter régulièrement des obligations publiques.
Alors voilà, une des grandes différences, c'est que effectivement, dans les deux principales politiques, qui est la politique de taux et la politique d'achat, la Banque du Japon continue à acheter, notamment elle achète des dettes d'État qui, au Japon, on parlait tout à l'heure de dettes françaises, mais alors au Japon, c'est très très considérable également. Et donc, ça va pas être un changement fondamental. C'est un changement dans la conception. Et je crois aussi une chose qui est intéressante, qui à mon avis plus importante, qui marque un changement d'évolution au Japon, c'est que pour la première fois, il y a eu des augmentations de salaires négociées. Parce que le Japon était un des rares pays dans lesquels il y avait zéro, non seulement augmentation de salaire, mais zéro demande d'augmentation de salaire.
Les Japonais sont pas comme les autres.
C'est-à-dire qu'ils trouvaient que ça ne se faisait pas de demander. Et en fait, ça, c'est un changement de mentalité qui est, à mon avis, très, très notable, puisqu'on a eu des négociations salariales qui se sont traduites par des augmentations et qui prouvent qu'il y a eu un changement d'état d'esprit qui, à mon avis, là, très important.
Donc, un peu d'inflation au Japon ? Le pays où l'inflation était impossible ?
Ça ne va pas être considérable, à mon avis. Mais c'est quand même un changement d'attitude.
C'est important de
Mathieu Plame.
Oui, c'est important de le noter quand même parce que c'est il y a un changement. Parce que c'est là depuis 2007, je crois qu'il n'y avait pas eu de hausse de taux. Donc
17 ans.
Voilà, 17 ans. Et c'était, on était en négatif ans, depuis 2007.
Là, c'est vrai que finalement, l'épisode Covid, plus crise, post-Covid, reprise post-Covid, crise énergétique, bon, il y a des effets de protectionnisme aussi qui doivent jouer quand même sur l'inflation. Mais aujourd'hui, l'inflation est quand même supérieure à 2% depuis maintenant 2 ans au Japon, même si elle n'a pas atteint les niveaux qu'on a eu en Europe ou aux États-Unis. Mais c'est quand même un changement de doctrine. Et c'est vrai que s'il y a des augmentations de salaire, c'est quand même plutôt positif sur la dynamique économique. Ce qui était très étonnant, c'est qu'au-delà de ça, c'est que c'est un pays qui a un taux de chômage très bas. Pour le coup, la courbe de Philips ne marche pas du tout. C'est-à-dire qu'on a un chômage qui restait tout le temps autour de 3%, mais les salaires ne décollaient pas.
Mais parce que le Japon n'est pas comme les autres.
Le Japon n'est pas comme les autres, ça c'est clair. Et ils ont arrêté aussi, je crois, alors je ne sais plus comment ils appellent ça, mais il y a une espèce de contrôle de la courbe des taux.
Oui, c'est ça.
C'était notamment les courbes des taux, notamment faire en sorte que les taux longs ne dépassent pas 0%. Oui. Avec les rachats d'actifs, et ça, ils lâchent là-dessus. Donc ils vont diminuer leur programme de rachat d'actifs.
C'est un début de normalisation.
On a un début de normalisation, ce qui n'est pas inintéressant et qui donne peut-être un peu d'espoir pour l'économie japonaise, de sortir de cette déflation. La question, c'est quel timing pour la suite, sur la remontée de taux. Je crois que c'est aussi...
Enfin, c'est très, très subtil, quand même.
C'est très subtil, voilà.
Mais le japonais n'est pas comme les autres, et il est subtil.
Voilà. Et c'est le premier geste de subtilité pour la suite, normalement.
Vous avez des demandes de hausse de salaire chez WeCare ?
Je n'ai pas beaucoup de japonais dans mes équipes.
Il y a eu plus d'inflation en France qu'au Japon aussi.
Mais non, mais c'est là, vous êtes hausse de salaire à nouveau en 2024.
Bien sûr. Oui, tout à fait. De toute façon, moi, j'ai quand même une partie de mes intervenants qui ont des rémunérations qui sont relativement liées au SMIC.
Ah oui, donc là, il y a le phénomène d'indexation.
De toute façon, il y a un phénomène d'évolution. D'évolution, sachant que ces dernières années, ça a quand même assez fortement augmenté.
J'avais pas prévu d'en parler, j'avais mis dans mes sujets, et puis finalement, on va en dire un mot quand même, parce que c'est une enquête qui a été menée par la Monnaie de Paris. Ah. Et la Monnaie de Paris arrive à la conclusion, parce que vous avez tous les deux tous eu une réaction que j'ai trouvée intéressante à évoquer. Il y a eu de l'inflation, on est dans une économie qui ralentit, eh bien, il y a une espèce de retour vers le cash. Et donc, l'enquête a été menée, je crois, par IFOP pour la Monnaie de Paris. 83% des Français se disent à nouveau attachés au cash. C'est 4 points de plus, c'est en 2023, c'est 4 points de plus qu'en 2022. Et en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison, a priori, de se tourner vers le cash, Sylvie, quand il y a de l'inflation.
Non, c'est vraiment contre-intuitif.
Alors, c'est ce qui se passe.
Parce que oui, mais je trouve ça totalement contre-intuitif. Parce que effectivement, en période où quand il n'y a pas d'inflation, le coût d'opportunité de détenir du cash est faible ou nul. Donc vous pouvez garder du cash. Mais en période d'inflation, tout le cash que vous conservez se déprécie. Et donc il vaut mieux le placer pour profiter de l'augmentation de la rémunération. Donc c'est vraiment contre-intuitif. Bon, à part le fait que ça prouve bien qu'il faut augmenter l'éducation financière en France.
C'est la semaine de l'éducation financière.
Ben voilà, c'est pour ça que je le dis. Il faut vraiment augmenter l'éducation financière parce que franchement, c'est vraiment contre-intuitif. Alors, ça pourrait prouver, enfin, ça pourrait être le signe d'une certaine inquiétude des Français.
C'est ça, en fait.
Et deux, peut-être quant aux banques dans lesquelles elles pourraient placer leur argent. Ce que je trouve quand même très inquiétant. D'abord parce que les banques françaises sont quand même très solides. Ensuite, parce qu'il y a un système de protection des dépôts, c'est-à-dire que tout l'argent que vous mettez en dépôt dans une banque, il est protégé à hauteur de 100 000 euros par le fonds de garantie des dépôts.
Ça, c'est donc la promesse.
Mais c'est la promesse, mais ça, vous pouvez être absolument certain que vous récupérerez vos fonds. Donc, je trouve cette inquiétude...
Pas que tout le monde parte au tapis en même temps, quoi.
Et c'est vraiment contre-intuitif. Je suis très étonné, à vrai dire.
Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Et pour vous, Guillaume Richard, c'est un signe d'inquiétude?
Bien évidemment. On l'a lié là à l'inflation, mais je pense que l'inflation n'a pas eu cet effet-là. C'est surtout, je pense, les faillites des banques aux États-Unis. On a eu la SVB, le Crédit Suisse en Suisse.
Et une nouvelle banque aux États-Unis, une banque moyenne qui est aussi un peu.
Et, ouais. et, 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 euh, là-dessus, on se pose la question, plus la crainte par rapport à ce qui se passe en Russie, tiens, s'il y avait la guerre, qu'est-ce qui se passe, les banques, comment ça fonctionnerait? C'est juste un phénomène de crainte. Vous avez de la crainte, vous faites quoi? Vous allez vers l'or et vous mettez de l'argent liquide sous votre matelas.
Ou les cryptos.
Ou des cryptos.
Vous avez vu, on est passé à 12%.
Non, les cryptos, c'est très différent, les cryptos. Parce que les cryptos, oui. Si on regarde qui va vers les cryptos, ce sont les jeunes. Et en fait, ils sont les jeunes qui sont influencés par les influenceurs des TikTok, des Instagram, des machins, etc. Qui ont l'envie de dire tiens,
c'est pas une valeur refuge.
On a, je sais pas qui a gagné, qui annonce qu'il a gagné énormément d'argent grâce aux cryptos, etc. Et donc, je veux faire la même chose que lui. Ouais. Et quand on regarde le profil, on a 57% des gens qui détiennent des cryptos qui ont moins de 35 ans.
Oui, alors là aussi, ça prouve qu'il faut améliorer l'éducation financière parce que ce truc-là est super, super, super risqué.
Mais je pense que tous ceux qui achètent des cryptos savent que c'est hyper risqué et qu'il faut pas y mettre plus.
Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Il y a des trucs de base dont il faut se souvenir. Un des trucs de base, c'est que vous n'avez pas de rendement sans risque. Ça a l'air tout bête de dire ça, mais c'est vraiment évident. Il n'y a pas de rendement sans risque. Si ça peut vous rapporter très cher, c'est que c'est très risqué.
Sinon, tout le monde
c'est la règle.
C'est le loto. C'est le loto. Vous mettez 1 euro, ça peut vous en rapporter 13 millions, mais la probabilité de chance est très faible.
Mais effectivement, j'ai vu cette étude et je trouve ça plutôt inquiétant parce que effectivement, c'est les jeunes. Et c'est les gens pas les plus fortunés, au contraire. Donc non, je trouve ça très risqué. C'est pas un bon signe.
KPMG, 12% des Français possèdent des cryptos. Il y a plus de Français qui possèdent des cryptos que de Français qui possèdent des actions.
Ah oui.
Mais ça va pas ça.
C'est un problème.
Mais c'est un vrai problème. Il faut vraiment augmenter l'éducation financière.
Bon, après j'ai pas regardé les encours parce que quelqu'un qui possède des cryptos mais qui a mis 20 euros.
Oui, voilà, mais c'est l'encours qui compte quand même effectivement. Voilà. Donc je pense que j'ai
pas creusé tous les chiffres.
Oui, après, c'est en direct les actions qu'on possède en direct, parce qu'à travers l'assurance vie, vous pouvez posséder des actions quand même. Donc, heureusement, je pense qu'il y a une différence. Non, juste un mot là-dessus, c'est vrai que il y a quand même un effet d'érosion importante des dépôts quand vous avez de l'inflation comme on a eu. C'est-à-dire que on a plus de 10% de hausse des prix d'inflation sur 2 ans. Quand vos dépôts ne sont pas rémunérés, votre valeur réelle, elle perd 10%.
C'est vrai.
C'est un effet d'encaisse réelle négative. Donc, c'est vrai que vous n'avez pas intérêt à en posséder beaucoup. Or, ce qu'on voit, c'est que finalement, les gens ont plutôt tendance ne réagissent pas comme ça.
Il y a le livret A. Le livret A, ça rémunère un peu.
À 3% quand même.
Et puis, c'est net d'impôt.
C'est net d'impôt. Mais par contre, les dépôts, c'est clair. Alors, nous, on a regardé un certain nombre de choses qui sont intéressantes. Parce que les ménages continuent à surépargner beaucoup. Et donc c'est vrai qu'on se demandait pourquoi ils surépargnaient autant. En réalité, quand on regarde ça, on dit bon bah donc du coup ils sont plus riches, ils ont mis plus d'argent de côté. Mais quand on regarde la valeur réelle des encours financiers, quand on enlève les effets de l'inflation, c'est-à-dire l'encours du patrimoine financier, en fait il n'est pas plus élevé qu'en 2019, malgré cette surépargne qui a été très forte pendant 4 ans, parce que l'inflation a mangé en fait le surplus d'épargne, donc ce qu'on appelle une forme de taxe inflationniste, c'est-à-dire que ça a érodé la valeur réelle des patrimoines financiers.
C'est l'impôt qui ne se voit pas.
Et voilà, et donc du coup, c'est vrai que c'est assez particulier parce que jamais on a mis autant de côté. Et donc on pourrait dire l'épargne est très forte, effectivement elle est forte, mais par contre la valeur réelle des encours du patrimoine financier n'a pas augmenté, voire même elle a baissé en réalité avec cet effet de l'inflation.
Mais est-ce qu'il prouve sans doute un phénomène d'inquiétude quand même chez les épargnants parce qu'ils veulent reconstituer leur.
Mais là, alors, est-ce qu'ils épargnent pas pour compenser cette
inflation? Pour reconstituer cette. Oui.
Une question.
On a 5 minutes 50. Petite explication de texte sur l'union des marchés de capitaux. J'entends parler que de ça. Bruno Le Maire est obsédé par l'union des marchés de capitaux. Il s'agit de quoi? D'unir qui? Pour faire quoi?
En fait, les pays européens. C'est-à-dire que, pour faire simple, plutôt que d'avoir différentes bourses, par exemple, la bourse de Paris, la bourse de Francfort, la bourse d'Amsterdam, vous auriez un grand marché unique.
Une bourse unique.
D'accord. Avec des règles uniques, avec un superviseur unique, et qui permettrait de créer ce qu'on appelle un pool de liquidités, c'est-à-dire qui serait assez grand pour que les entreprises puissent émettre, donc puiser dans ce marché de liquidités pour financer leurs besoins. Puisqu'en Europe, on se finance, c'est très connu, les entreprises se financent par emprunt bancaire plus que par émission sur le marché. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de marché qui permet de financer ses besoins. Donc l'idée, ce serait de faire, à côté de ce qu'on a fait en matière bancaire, on appelait ça l'union bancaire.
Ça, je me souviens, oui. Qu'on considère comme quasi achevé.
Quasi achevé, on va dire. Faire la même chose sur les marchés financiers, une union de capitaux.
Ça fait combien de temps qu'on en parle?
Ça fait des années. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des tentatives pour vous pouvez pas avoir un marché unique si vous n'avez pas les mêmes règles. Et il y a, on va revenir à ce dont on discutait au début, une des règles les plus fondamentales en termes de marché financier, c'est la fiscalité. Et ça, chaque pays, par définition, la fiscalité est nationale.
Eh oui.
Donc, tant que vous n'aurez pas d'harmonisation, c'est très difficile de créer un marché unique. Pareil pour les règles, le contrôle. En matière bancaire, on a créé un superviseur unique avec la BCE. En matière de marché, il y a énormément de réticences pour faire la même chose, enfin le parallèle, avec un superviseur unique. Alors, on a déjà une autorité des marchés financiers européens, mais qui n'a pas de pouvoir de supervision sur les grands opérateurs de marché. C'est l'ESMA, qui d'ailleurs est basée à Paris. Et donc, l'idée, ça serait de donner à cette autorité des pouvoirs de supervision sur les marchés, comme la BCE en a sur les banques.
Je comprends très
et
bien.
Et là, la France n'est pas du tout d'accord. La France est très favorable. L'Allemagne préfère, ne veut pas donner un superviseur européen des pouvoirs de contrôle sur un marché.
Donc
on a un problème. Et puis, le problème, c'est d'harmonisation. Vous n'avez pas à faire un marché unique des capitaux. Il faut d'abord avoir un grand marché. Pour ça, il faut des règles. La fiscalité est essentielle. Donc, c'est très compliqué. Mais il faut aussi des produits. Et c'est pour
des
ça
produits.
Qu'on... Des produits européens.
Ah oui, d'accord. Oui.
Et financiers. Notamment, si on passait, par exemple, et je reviens encore, c'est un de mes grands dadas, un changement structurel du financement des retraites, puisqu'on a vu qu'il y a énormément d'épargne, que cette épargne ne va pas financer les entreprises parce qu'on n'a pas ce marché européen. Mais si on crée une incitation forte avec un produit d'épargne, par exemple, qui servirait à financer les retraites, ça permettrait de réorienter cette épargne qui est chez nous stockée dans les livrets A ou sur les comptes à vue, de les réorienter vers le financement des entreprises, et ça serait vraiment très positif.
Et de réorienter celle qui
quitte l'Europe. Et ça serait une vraie réforme structurelle.
Mais ça paraît tellement de bon sens, en fait.
Il
faut se mettre d'accord.
Voilà.
Parce qu'on sait qu'il y a une partie de l'épargne allemande qui va vers de l'obligataire US, par exemple.
Mais il y a beaucoup de choses qui vont vers les marchés étrangers, parce qu'ils ne trouvent pas... il n'y a pas les produits au niveau européen. Et deux, vous n'avez pas le marché, vous n'avez pas la place pour les échanger.
On vient de raconter un truc qui n'existera pas.
Dans ce cadre, il faut quand même saluer la grande réussite d'Euronext, qui a fêté ses 10 ans récemment, et qui est quand même une très, très grande réussite.
Et qui est la première bourse d'Europe, désormais.
Il faut vraiment le saluer.
Mais on vient de prendre deux minutes hyper claires, hyper pédago pour raconter un truc qui n'existera pas, Sylvie.
J'en sais rien. J'espère. La France a décidé de remettre ça de refaire un énième groupe de travail. Enfin, quand on voit la composition du groupe de travail français pour un marché de capitaux européen, il n'y a que des Français.
Oui.
Déjà, ça pose un petit
problème.
On
risque d'avoir du mal à convaincre nos partenaires.
Voilà, si déjà on leur parle pas.
C'est pas l'amour fou entre la France et l'Allemagne.
Alors, cela étant, ce que propose la France, qui est de dire, au lieu d'essayer de faire quelque chose à 27, on va pas y arriver, à se mettre d'accord à 27, essayons de nous mettre ensemble dans un plus petit groupe. C'est-à-dire de se mettre d'accord avec, par exemple, les Pays-Bas, l'Allemagne. Mais déjà, c'est compliqué.
Cette idée, il y a pas mal de gens qui réfléchissent à l'Europe, à ses difficultés et aux pistes d'évolution. J'ai souvent entendu l'idée qu'il fallait avoir une Europe opérationnelle resserrée à des pays historiques. En fait, vous prenez l'Europe de 1957 aux années 80-90, et les pays qui la composaient, ce serait la vraie Europe opérationnelle avec une dimension un peu fédérale.
C'est un peu compliqué. À partir du moment où on a une monnaie commune, 19 pays, on ne peut pas trancher dedans. Donc, soit c'est la zone euro et l'UE.
Ça, c'est un vrai critère.
Voilà. Mais par contre, au sein de la zone euro, dire on va exclure un certain nombre de pays qui ont la même monnaie et dont les décisions vont avoir un impact sur la monnaie et donc sur leurs économies, c'est un peu compliqué. Quand même.
Mais parce qu'en fait, on a fait l'Europe un peu à l'envers, si je peux.
Il ne fallait pas commencer par la monnaie.
C'est-à-dire qu'en théorie, la monnaie, c'est le point d'aboutissement de toutes les réformes.
Et on a pensé que ce serait le point de départ.
Non, on n'a pas pensé que ce serait le point de départ. On a pris le sujet sur lequel on pouvait se mettre d'accord, parce qu'il n'était pas politique, c'était un sujet technique. Donc en fait, notre problème, c'est que les principaux politiques européens préfèrent garder leur petite part de pouvoir, mais qui est vraiment à eux, plutôt que de partager un pouvoir plus grand.
On a terminé. J'ai pas le temps de faire les ZFE, Guillaume. Je suis désolé. Bon voilà, pour l'info, le gouvernement a décidé... C'est pas présenté comme un recul sur une contrainte verte, un recul de plus, mais enfin c'est quand même bien un peu de ça dont il s'agit. Christophe Béchu a dit « le mieux est l'ennemi du bien ». Voilà, donc on a décidé d'exonérer de contraintes vertes.
Oui, parce que le point c'est toujours le même. C'est l'acceptabilité des contraintes liées à la transition écologique. Et cette acceptabilité, aujourd'hui, c'est celle qui nous a conduit à la crise des bonnets rouges, à la crise des gilets jaunes, à la crise agricole. Ouais. Et donc, aujourd'hui, il faut faire en sorte que la transition écologique, ça soit quelque chose qui soit désirable pour l'ensemble des populations et non pas un ensemble de contraintes.
Merci Guillaume Richard, Sylvie Matera pour cette explication de texte. Non mais c'est très super clair.
Merci.
Et Mathieu Plane également, merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.